travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. À la suite des attentats qui nous ont tous bouleversés, Hollande a pris les habits de chef de guerre et de protecteur de la nation. Depuis hier et l'ouverture de la COP21, il joue les maîtres de cérémonie et se pose en sauveur de la planète. Ce sont des gesticulations dérisoires. Depuis qu'il est au pouvoir, Hollande a été incapable d'apporter quelque solution que ce soit au chômage, aux injustices et aux inégalités en France, et il veut nous faire croire qu'il va éradiquer le terrorisme dans le monde. Il veut nous faire croire qu'il va résoudre le problème du réchauffement climatique. Certains diront peut-être que là, avec la COP21, Hollande n'est pas tout seul, que tous les chefs d'État sont unis, mobilisés et bien conscients de l'urgence de la situation. En effet, ils savent tout du problème et des conséquences catastrophiques pour des millions de femmes et d'hommes de ce réchauffement climatique. Et oui, ils ont fait de beaux discours aux accents lyriques et solennels. Mais cela ne fait qu'accroître le fossé entre leurs discours et leurs actes. Et cela n'en est que plus révoltant. Même à imaginer que les 180 chefs d'État se mettront d'accord sur le papier pour limiter le réchauffement climatique aux 2 degrés reconnus nécessaires par tous les experts, ils seront incapables d'agir sérieusement. Et ils l'avouent. Ils l'avouent en expliquant qu'ils ne signeront pas d'engagement contraignant ni pour leur pays, ni pour les grands groupes industriels qui sont les premiers pollueurs de la planète. Ils l'avouent aussi en s'empaillant sur leurs responsabilités respectives et sur le niveau d'effort demandé à chacun. Non, les dirigeants des grandes puissances, les Obama, les Merkel, les Xi Jinping, ne feront rien de sérieux, parce qu'ils ne feront rien qui gêne leurs intérêts économiques, la rentabilité et la compétitivité de leurs trusts. Et regardez Hollande, il se veut exemplaire en la matière. Mais avec Macron, il vient de remettre des bus sur les routes. Il continue de fermer des lignes de train secondaires. Il enterre le ferroutage. Il a donné son accord pour construire le second aéroport à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Les dirigeants des grandes puissances ne bougeront le petit doigt que si cela peut rapporter de l'argent aux capitalistes, que si Bill Gates, la BNP ou EDF trouvent le moyen de faire du business avec l'écologie. Ils veulent une écologie compatible avec le marché et favorable au profit. C'est ce qu'ils appellent le capitalisme vert. Et oui, c'est vrai, certains trusts peuvent prospérer sur l'écologie. Et puis, avec l'écologie, ils peuvent toujours se faire de la publicité et s'asseoir dessus, comme on l'a vu avec la fraude à grande échelle de Volkswagen. Et souvenez-vous comment ont réagi les autorités européennes face à cette fraude de Volkswagen. Au lieu de durcir les contrôles, l'Union européenne a assoupli les normes d'émissions de gaz polluants pour les moteurs diesel. Autoriser les constructeurs à polluer, voilà la solution des dirigeants européens qui promettent aujourd'hui de sauver le climat. Il y a d'ailleurs un aspect indécent dans l'organisation même de cette COP21. Dans ce grand barnum médiatique où 180 chefs d'État sont reçus en grande pompe, dans la présence de centaines de firmes, dont certaines font partie des plus grands pollueurs de la planète. Alors aujourd'hui, les déclarations sont belles, mais les faits sont têtus. Et ils montrent que ce n'est pas avec ce genre de dirigeants dévoués au capital que l'on protégera le climat. Pollution, sous-développement, famine, crise économique, chômage de masse, les dirigeants actuels de la société, la grande bourgeoisie et ses sous-fifres politiques sont incapables d'apporter des réponses aux problèmes fondamentaux qui se posent aujourd'hui à nous. Et il en est de même pour les guerres et pour le terrorisme. Hollande a profité de l'émotion provoquée par les attentats du 13 novembre pour prendre un tournant sécuritaire et guerrier et pour intensifier la guerre en Syrie. Mais cette guerre contre le terrorisme n'a pas démarré le 13 novembre. Elle dure depuis 14 ans. Et force est de constater que les dirigeants des grandes puissances échouent à faire reculer le terrorisme. Aujourd'hui, en Afghanistan, les talibans sont de retour. L'Irak et la Libye sont devenus des fabriques pour djihadistes. Et cela fait 4 ans que la Syrie est ravagée par la guerre. Quant aux attentats, ils n'ont jamais cessé. Avant de frapper Paris, c'est la Turquie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie que les terroristes avaient ensanglantés. Ensuite, ils ont frappé au Mali, en plein cœur de Bamako, alors que l'on nous expliquait que les terroristes avaient été vaincus dans ce pays. Et puis, ils ont encore sévi à Tunis et en Égypte. Les dirigeants impérialistes reconnaissent des lacunes et des erreurs dans leur guerre contre le terrorisme. Ils sont d'ailleurs bien forcés de reconnaître que Daesh est né de la guerre menée en Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni en 2003, qu'il a été formé par les sunnites, exclus du nouveau régime irakien par les Américains, et qu'il a prospéré sur le délitement de l'État irakien et libyen suite aux interventions impérialistes. Mais cette fois, nous disent-ils, ils s'y prendront beaucoup mieux et ils ne referont pas les mêmes erreurs. Ils formeront une grande coalition internationale et réussiront mieux militairement et politiquement. Eh bien, avec la Turquie qui a abattu un avion de combat russe, cela commence plutôt mal. Et c'est bien sûr, sans oublier, le Qatar et l'Arabie Saoudite qui comptent parmi les alliés de cette grande coalition, mais qui financent et qui forment des djihadistes dans la région. Et politiquement, vous le savez, la solution envisagée pour stabiliser la Syrie consiste à s'appuyer sur le régime féroce de Bachar al-Assad, qui a attaqué son peuple à l'arme chimique, qui a tué et fait disparaître des dizaines de milliers d'opposants. Peut-on lutter contre des monstres en s'appuyant sur des régimes tout aussi monstrueux ? En agissant ainsi, ce n'est pas à la victoire contre le terrorisme qu'il nous mène, mais à une société de plus en plus barbare. Encore une fois, ils sont en train de poser des bombes à retardement dans une région qui explose déjà de toutes parts. Quant aux bombes larguées sur la Syrie et dont on nous dit qu'elles visent des centres d'entraînement et des centres de commandement de Daesh, elles tombent sur des villes peuplées, sur des populations civiles, sur les pauvres qui, justement, sont les seuls à ne pas avoir pu fuir Daesh. Qui peut croire qu'elles ne font pas ces bombes, elles aussi, des dizaines, des centaines, des milliers de victimes innocentes ? Non, la guerre des grandes puissances n'éradiquera pas le terrorisme, elle l'alimentera. Une fois de plus, en nous enfonçant dans un engrenage de plus en plus sanglant. Oui, Daesh exerce une des dictatures les plus féroces qui soient dans les régions qu'il domine en Irak et en Syrie. Leurs victimes sont autant et même plus musulmanes que chrétiennes. Preuve, s'il en fallait, qu'il ne s'agit ni d'un choc de civilisation, ni d'une guerre de religion, mais d'une lutte pour le pouvoir et pour les richesses d'une région surtout riche en pétrole. Il ne faut pas s'étonner que 30 000 djihadistes parviennent à faire leur loi sur un territoire aussi vaste et qu'ils résistent aux attaques d'une coalition internationale. C'est le résultat de toutes ces politiques tordues. C'est le produit des rivalités, des grandes puissances qui jouent chacune leur propre jeu, qui ont des intérêts multiples dans la région et qui s'appuient un jour sur les uns, un jour sur les autres. Le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. À la veille de la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès disait « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage ». Eh bien, on peut dire aujourd'hui que le capitalisme porte en lui le terrorisme comme la nuée porte l'orage. Eh bien, on ne peut pas combattre l'un sans combattre l'autre. Beaucoup nous disent, d'accord, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut bien les arrêter, il faut agir là, tout de suite, concrètement. Mais encore une fois, est-ce que le gouvernement en amène ? Je l'ai dit, avec cette guerre, il ne fait qu'aggraver la situation. Et en matière de sécurité intérieure, c'est la même chose. Qui peut croire que l'état d'urgence permanent et qu'une énième loi antiterroriste nous protégera des attentats ? Hollande a aligné les mesures sécuritaires. Déchéance de la nationalité, expulsion, fichier des voyageurs qui prendraient l'avion, contrôle multiplié. Appliquez-les une à une à la situation du vendredi 13 novembre et vous verrez qu'aucune n'aurait empêché d'agir les terroristes. Est-ce que l'on fera peur aux terroristes en les menaçant d'être déchus de leur nationalité ou en les menaçant d'être expulsés du pays ? Évidemment non. Comme le commande le Front National et la droite, le gouvernement veut désormais plus de contrôle aux frontières. Mais aucune frontière n'a jamais été étanche. Et c'est surtout dérisoire quand on sait que tous ces terroristes sont français, qu'ils sont nés ici, qu'ils ont été recrutés ici, ou alors juste de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Et aujourd'hui, à quoi sert donc la prolongation de l'état d'urgence ? Tous les terroristes qui le voulaient se sont cachés, ont éliminé les preuves. Alors à quoi sert-elle, cette prolongation ? Eh bien, alors que tous les rassemblements de foule sont autorisés, que les marchés de Noël ouvrent, que les grands magasins et les parcs d'attractions tournent, alors que la COP21 se réunit, des manifestations et des rassemblements sont interdits. Les manifestations de solidarité avec les migrants du 22 novembre ont toutes été interdites. Les manifestations contre la COP21 l'ont été aussi. Dimanche dernier, tous les médias ont fait tourner en boucle les échauffourées qui ont eu lieu place de la République, en déformant, comme toujours, la réalité. Car s'il y a eu en effet une poignée d'excités qui voulaient en découdre avec la police, il y a surtout eu, avant, une manifestation pacifiste organisée en cortège de plusieurs centaines de personnes. Et c'est cette manifestation qui a été brutalement dispersée avec les manifestants gazés et des dizaines d'entre eux arrêtés et gardés à vue 24 heures. Eh bien, c'est cela que nous dénonçons. Et nous dénonçons l'instrumentalisation par Hollande, Valls et Cazeneuve de cette poignée de casseurs et leur manipulation qui a consisté à utiliser la mémoire des victimes pour justifier de faire taire aujourd'hui les voix dissidentes. L'état d'urgence nous a été vendu pour combattre le terrorisme. La réalité, c'est qu'il sert à interdire les manifestations, à assigner les militants à résidence et à arrêter les manifestants qui braveraient l'interdit. Et tout aussi grave, au lieu de combattre les divisions, la peur et le racisme, ces mesures sécuritaires cultivent la méfiance, le repli sur soi et le rejet de l'autre. Elles vont dans le sens recherché par les terroristes eux-mêmes. Et elles font ici le jeu de la famille Le Pen. Les Le Pen en profitent d'ailleurs déjà. Le grand-père, pour demander la peine de mort avec décapitation. La fille, pour demander de rapatrier les migrants, même ceux qui risquent la mort. Et la petite fille, pour distiller son poison sur les musulmans qui ne pourraient pas avoir le même rang que les catholiques. Ces mesures de Hollande ne seront pas seulement inefficaces, elles vont aggraver le climat nauséabond qui préexistait aux attentats, où déjà il y avait de petits groupes qui attaquaient des migrants, où les identitaires d'extrême droite s'agitaient, y compris contre l'extrême gauche. Demain, les mêmes s'en prendront peut-être à nos camarades de travail, aux membres de nos familles, à nos amis, parce qu'ils sont étrangers ou suspectés de l'être par leur nom, leur couleur de peau, ou leurs signes religieux. Il faut refuser le cours réactionnaire et guerrier caché derrière l'unité nationale, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Non aux interventions impérialistes, non à l'état d'urgence permanent. sortir de ce bourbier du terrorisme et des guerres, il n'y a pas d'autre perspective que de faire table rase de ce monde inégalitaire, injuste et fou. Et pour commencer, il faut dénoncer une politique qui nous enfonce. Il ne faut pas cautionner et pas aider des dirigeants qui nous emmènent tout le droit dans le mur. Et il faut défendre la perspective de renverser le capitalisme parmi les travailleurs. Le danger ne vient pas de l'extérieur, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il ne vient pas de telle ou telle religion ou de telle ou telle communauté. Il vient de l'intérieur de notre système économique qui engendre le chômage, les inégalités, les injustices, la délinquance, les guerres. Un monde où 67 familles possèdent l'équivalent de ce qu'ont pour vivre 3,5 milliards de femmes et d'hommes. Un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des eldorados pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population, ne peut qu'engendrer des monstruosités. Le capitalisme est en faillite, il est au bout du rouleau. Et on le voit, le règne de la bourgeoisie, c'est non seulement l'exploitation et la dictature des actionnaires sur la société, mais c'est aussi cette barbarie qui se répand partout dans le monde et qui atteint maintenant Paris et le cœur de l'Europe. On ne se débarrassera de cette barbarie qu'en prenant le mal à la racine, c'est-à-dire à la domination de ce système économique fou. Alors, pour un monde débarrassé de l'obscurantisme, de l'injustice, poursuivons notre combat pour renverser le capitalisme et bâtir une société communiste, la seule issue pour l'humanité. Avant le 13 novembre, on nous expliquait à gauche que l'essentiel était de lutter contre le Front National. Et rappelez-vous comment Valls expliquait que la France risquait de se fracasser sur le Front National, que l'éventuelle élection du FN à la tête d'une région serait un drame et une catastrophe pour la France. Comment il en appelait, au-dessus des partis et même au-dessus de son propre parti, à faire le Front Républicain. Mais, quelques jours après, Hollande appelait Marine Le Pen à l'Élysée pour prendre auprès d'elle des conseils. Et le gouvernement a emprunté au programme du Front National nombre des mesures d'urgence qu'il impose aujourd'hui. Et maintenant, ils nous demandent de faire barrage au Front National dans les urnes. Ils en appellent au Front Républicain et ils nous disent tout sauf Le Pen. Eh bien, c'est de la manipulation politicienne. Ils se confortent les uns les autres. Et ils sont tous profondément d'accord. Le Parti Socialiste, la droite et le FN sont rivaux. Ils se battent pour aller à la mangeoire. Mais ils sont surtout les défenseurs et les complices de cet ordre social capitaliste. Ils défendent tous le point de vue du patronat. Ils nous jouent tous le coup de l'esprit national. Ils le font tous en temps normal. Et ils le font plus encore depuis les attentats. Mais l'esprit national est contraire aux intérêts des travailleurs. Faire croire que nous sommes tous dans le même bateau et que ce qui est bon pour Dassault, Total ou Bettencourt est forcément bon pour les travailleurs a toujours été un piège pour les exploiter. Ce n'est vrai ni en politique extérieure ni en politique intérieure. La prétendue unité qu'il faudrait avoir dans la guerre contre le terrorisme ne met pas fin à la guerre de classe menée par le patronat. Et pendant qu'on nous demande de rester unis, le patronat continue ses licenciements, son chantage à la compétitivité et la démolition du code du travail. Eh bien, nous nous présentons dans cette élection pour dire, contre tous ces politiciens défenseurs de l'ordre bourgeois, que la société est organisée en deux classes sociales. Une classe dominante, une classe exploitée, deux classes aux intérêts opposés et dont la situation respective est déterminée par un rapport de force. Lorsque la classe ouvrière se fait craindre, elle peut arracher des avancées. Lorsqu'elle ne se bat plus, elle recule fatalement, et avec elle, tout le reste de la société. Nous nous adressons aux travailleurs conscients de cela pour qu'ils puissent s'exprimer dans ces élections, pour qu'ils fassent entendre le camp des travailleurs, le camp des travailleurs conscients d'avoir à mettre en avant les revendications immédiates dont Chantal a parlé, mais conscient aussi d'avoir à mettre en avant les valeurs de la classe ouvrière et les perspectives qu'elle porte de révolutionner toute la société. Les bourgeois nous ressassent en permanence leurs valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, contre toute réalité. Eux-mêmes n'y croient d'ailleurs pas un instant. En face, le camp des travailleurs se tait. Les travailleurs, y compris les plus conscients, ne mettent plus en avant les valeurs que leur classe représente. Car oui, le camp des travailleurs, la fraction de ceux conscients, a toujours porté des valeurs propres aux exploités. Alors que la bourgeoisie a toujours prôné l'individualisme, la concurrence et le chacun pour soi, les travailleurs ont besoin de solidarité, d'organisation et de dévouement, non seulement pour se battre contre l'exploitation, mais tout simplement pour survivre. Tout en menant le combat quotidien contre le travail des enfants, pour la journée de travail de 8 heures, les militants défendaient l'idée de l'émancipation sociale, du progrès de toute la société, d'un monde libéré des superstitions et des préjugés, d'un monde libéré de l'emprise des églises, qui ont toujours été du côté des puissants et de l'ordre établi. L'internationalisme a toujours fait partie du capital politique du mouvement ouvrier. C'est en intégrant dans leur rang tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur langue, leur religion, leur couleur de peau, que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat. Ce faisant, ils ont fait reculer les idées racistes et xénophobes dans toute la société. Et l'honneur du mouvement ouvrier a été de militer contre toutes les formes d'oppression, pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, pour la libération des peuples colonisés, contre l'apartheid. Eh bien, ce capital politique a été peu à peu dilapidé par le Parti communiste. Par le Parti communiste, qui en devenant stalinien, est aussi devenu nationaliste et a remplacé le drapeau rouge par le drapeau tricolore, l'international par la Marseillaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français a versé dans le chauvinisme et les attaques anti-allemandes. Ensuite, les militants et le milieu ouvrier qui l'influençaient ont été nourris aux diatribes de marché contre une Europe accusée de piétiner la souveraineté de la France ou encore aux appels pour le produire français. Et avec son obsession anti-allemande et sa propagande cocardière, un Mélenchon en remet aujourd'hui une louche. Mais c'est bien Marine Le Pen qui prospère sur ce terreau. Alors, sans attendre les luttes qui feront de nos idées une force capable d'ébranler la société bourgeoise, il faut se battre à nouveau pour diffuser les idées internationalistes et les valeurs propres au mouvement ouvrier parmi les travailleurs. Les idées de la lutte de classe qui constituent la seule boussole pour indiquer les intérêts des travailleurs. Il est vital que nous, les travailleurs, quelle que soit notre origine, nous nous sentions une classe unie par nos intérêts pour nous défendre contre cette minorité qui nous exploite et plonge le monde dans la barbarie. Il est vital que nous retrouvions une conscience de classe, une conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants. Notre condition de salarié et d'exploité et de chômeur nous unit au-delà de nos différences. Alors, il faut en être conscient. Il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, la communauté des travailleurs et des exploités, une classe sociale qui n'a rien de commun avec ceux qui nous appellent aujourd'hui à l'unité nationale contre le terrorisme. Car ce sont les mêmes dirigeants qui nous portent les coups ici en France. Loin des calculs électoraux, il faut montrer aux nôtres, y compris à ceux qui s'égarent en regardant vers le Front national, qu'il y a encore dans la classe ouvrière des femmes et des hommes qui connaissent la seule voie pour lutter contre les injustices et les inégalités de cette société, lutter contre la bourgeoisie, faire reculer l'exploitation, pour finir par la supprimer totalement en bâtissant une société fondée sur la propriété collective des richesses et des moyens de production, une société communiste. Faire entendre le camp des travailleurs, c'est porter les revendications immédiates qui permettraient au monde ouvrier de relever la tête, mais c'est aussi œuvrer pour que renaisse un pôle de résistance au cours de plus en plus inhumain pris par la société. Un cours inhumain dont le sort des migrants est bien significatif. C'est passé au second plan de l'actualité, mais chaque semaine, des dizaines d'enfants, de femmes et d'hommes meurent pour essayer de traverser la Méditerranée. Les survivants qui ont réussi à poser un pied en Europe se heurtent encore aux murs et aux barbelés. Ils sont arrêtés, bloqués, forcés d'attendre dans des conditions infâmes quand ils ne sont pas internés dans des camps de rétention. Relâchés, ils reprennent leur marche forcée ou s'en remettent aux passeurs, risquant encore de mourir asphyxiés ou d'être parqués dans des bidonvilles comme celui de Calais. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de l'Europe. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. Mais non, pour ne pas donner prise aux critiques de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement socialiste barricade les frontières et aggrave les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Tout est ignoble dans cette politique. Ce tri qui est fait entre les vrais réfugiés qu'on pourrait accepter et les migrants économiques qu'il faudrait refuser. Ces centres, appelés hotspots, qui sont une façon de sous-traiter les migrants aux pays pauvres, à la Grèce, au Liban, à la Jordanie ou à la Turquie. Comme si pour ces pays, ce n'était pas un problème autrement plus compliqué à résoudre que pour des pays riches comme l'Allemagne ou la France. Exactement comme les municipalités bourgeoises payent pour ne pas construire de logements sociaux sur leur territoire, eh bien les grandes puissances payent pour que ces centres soient le plus loin de chez eux. Il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour dire que la France peut faire mieux qu'accueillir les 30 000 réfugiés sur 3 ans qui ont été promis par le gouvernement. Cela fait moins de réfugiés qu'il n'existe de communes dans le pays. Tout le monde l'a rappelé, à d'autres époques où la situation économique du pays n'était pas plus florissante, la France a su accueillir, en tout cas apporter l'asile, aux réfugiés de la guerre d'Espagne, aux boat people vietnamiens, ou encore aux millions de pieds noirs qui est venu en France en catastrophe à la fin de la guerre d'Algérie. Hier, le gouvernement, comme la droite et l'extrême droite, nous répétait jusqu'à la nausée qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, ils vont nous dire qu'accueillir les migrants représente un danger parce que des terroristes pourraient se glisser parmi eux. Ils vont maintenant faire passer des victimes de la barbarie pour des assassins potentiels. Eh bien, ça aussi, c'est une monstruosité. S'ils voulaient accueillir les migrants et vérifier leur identité, mais qu'ils organisent leur asile, qu'ils organisent leur transport et qu'ils organisent la traversée de la Méditerranée, qu'ils organisent des ponts aériens comme ils l'avaient fait pour les boat people, mais qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi pour refuser ici l'asile aux migrants. Encore une fois, face à cette unanimité réactionnaire, il faut montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui ne cèdent pas au repli sur soi, à la peur de l'autre, qu'il y a des femmes et des hommes qui ne se trompent pas sur les responsables de la situation et qui se préparent à lutter contre la domination de la grande bourgeoisie et contre tout son système qui nous mène à la barbarie. Si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est quelle est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine même des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. Mais pour en être capable, elle doit non seulement retrouver le chemin de la combativité, mais aussi de la conscience de classe. Faire en sorte que cette conscience de classe redevienne la boussole des travailleurs et le fond de notre politique, c'est notre raison d'être. Les événements d'Air France ont confirmé le caractère anti-ouvrier de tous les grands partis, du Parti socialiste au Front national. Mais ils ont aussi réveillé la conscience de classe dans le monde du travail, sans que cela n'ait été coordonné par aucun syndicat, par aucun parti politique. L'écrasante majorité des travailleurs s'est unie derrière les salariés d'Air France et contre le torrent de boue dont ils ont été victimes. Cela a été une réaction élémentaire, un même sentiment d'indignation, d'injustice et de dignité bafouée. Cela a été l'expression d'un sentiment de classe. Mais entre un sentiment de classe et une conscience de classe forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les travailleurs dans les combats qu'ils ont à mener, il y a un gouffre. C'est ce gouffre que pourrait remplir un parti ouvrier présent largement dans les classes populaires, en incarnant dans toutes les situations politiques une politique propre aux travailleurs. C'est ce que nous visons. Et c'est tout le sens de notre participation aux élections en général. Que les travailleurs s'affirment de nouveau comme une force politique. Cela peut paraître lointain quand on voit comment aujourd'hui les travailleurs sont dispersés, déboussolés pour certains. Et bien sûr, cela ne se fera pas en une élection et cela ne se fera même pas en plusieurs élections. Ce processus peut prendre d'autres voies que celles des élections. Une révolte des travailleurs pourrait faire mûrir les consciences à une toute autre échelle et d'une toute autre façon. Mais il faut utiliser toutes les possibilités qui se présentent à nous pour progresser dans cette voie. Et là, dimanche prochain, il faut utiliser les élections régionales. Il faut que le sentiment et les intérêts de classe qu'ils recouvrent et que l'on a vu surgir lors des événements d'Air France trouvent une expression politique. Si les travailleurs ne s'érigent pas en force politique, c'est la bourgeoisie et ses partis et les partis à son service qui garderont le monopole de la parole et leurs mensonges sur les 35 heures, sur la compétitivité ou sur le code du travail auront libre cours. Eh bien, il faut que les travailleurs ne laissent pas leurs ennemis politiques parler à leur place. Chaque élection doit permettre de montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui se revendiquent du camp des travailleurs. Alors, profitons de ces élections régionales et de la présence des listes lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Beaucoup, avant même les attentats et la COP21, enfin, je ne sais pas si ça passionne beaucoup, se désintéresser de cette élection régionale. Cela fait des années, des décennies que le monde du travail vit et s'enfonce dans la précarité, dans le chômage de masse. Et il y en a eu des élections, il y en a eu des alternances. Alors oui, les travailleurs ont eu des occasions de vérifier que les élections ne changeaient pas leur sort. Avec les attentats et avec ce sentiment d'être démunis face à une situation qui ne fait que se dégrader, beaucoup nous disent « tout ça, ça ne sert à rien ». Il n'y a pas à s'en étonner, mais il y a à convaincre. Il y a à convaincre que si le vote pour les listes lutte ouvrière a une utilité, celle de montrer qu'il y a des travailleurs qui ont compris comme eux que les grands partis ne représentent pas leur camp, celle de rassembler politiquement les travailleurs conscients d'avoir des intérêts de classe à défendre et une société à transformer radicalement. Oh, le problème, ce n'est pas d'être entendu de ceux qui gouvernent, car tous ces gens-là se moquent parfaitement de ce que les électeurs peuvent signifier dans les élections. Mais il s'agit d'être entendu du monde du travail. Il s'agit de montrer aux nôtres qu'une fraction ne se résigne pas, qu'il y a un camp auquel ils peuvent se rallier s'ils n'acceptent pas la situation. En déchirant ou en brûlant leur carte d'électeur, en affirmant qu'ils ne marchent plus dans tout ce cirque, certains croient pouvoir se venger des partis qui les ont trahis et exprimer leur opposition radicale au système. Ils se trompent, car en s'abstenant, ils se taisent. Et pire, leur abstention donnera d'autant plus de poids à tous ceux qui se déplaceront pour aller voter pour le Parti socialiste, pour la droite ou pour le Front national. Et au bout du compte, ces abstentionnistes seront récupérés par les vainqueurs. Alors oui, la réalité, c'est que pour changer la vie des travailleurs, il faut inverser le rapport de force entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et cela, seules les luttes collectives peuvent le faire. Mais faute de pression collective et d'intervention directe des exploités sur ceux qui gouvernent, toute la vie politique se résume à cela. Et même aux yeux de ceux qui n'y croient plus, les élections constituent les principales échéances de la vie politique. Eh bien, il faut que les travailleurs les utilisent, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour faire entendre leurs intérêts contre ceux du grand patronat, pour affirmer leurs perspectives contre celles que veulent nous imposer les porte-paroles de la bourgeoisie. L'issue que nous indiquons aux travailleurs peut sembler lointaine, et en même temps, elle est inscrite dans la société elle-même. La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires. C'est la vie elle-même, et c'est le moteur de l'histoire. Parce que les travailleurs ne resteront pas indéfiniment l'arme au pied. Ce qui nous caractérise, c'est cette confiance dans la classe ouvrière, cette confiance dans les exploités, et donc cette confiance dans l'humanité. C'est cette conviction que le capitalisme n'est qu'une étape dans l'histoire de l'humanité et qu'un jour, nous en tournerons la page pour en écrire une nouvelle, autrement plus enthousiasmante. Alors, ne craignons pas d'être minoritaires, portons haut nos convictions et soyons-en fiers. Et au travers de ces élections, continuons d'avancer dans la voie qui est la nôtre, celle de participer à la reconstruction d'un véritable parti qui représente les intérêts politiques du camp des travailleurs. Alors faites entendre le camp des travailleurs, votez pour les listes lutte ouvrière.